Bonsoir. Tout d'abord, j'aimerais saluer les femmes roms roumaines qui sont ce soir ici. Je les remercie beaucoup d'être là. C'est un grand honneur. J'aimerais répondre à votre présentation, M. Costa, par rapport à l'affaire des enfants en République tchèque mis dans des institutions pour des enfants handicapés, entre autres. Il y a récemment le résultat d'une recherche qui a eu lieu au Royaume-Uni, dans 25 écoles, où ces mêmes enfants, migrants au Royaume-Uni, ont suivi un parcours scolaire exemplaire. Ils ont même eu des résultats supérieurs des enfants anglais. Alors, c'est une recherche dont les résultats ont été présentés au gouvernement tchèque, parce que maintenant le gouvernement tchèque, comme vous le savez, doit exécuter votre arrêt. 7 ans après, il n'a pas encore fait. Les écoles sont toujours là. C'est une manne économique pour ces écoles, parce qu'ils sont financés par le budget d'État à des sommes faramineuses, parce que les parents non-roms ne veulent pas les enfants roms dans la même classe que leurs enfants. Donc ça les arrange bien d'avoir ces enfants dans les écoles pour des enfants handicapés. La qualité de l'éducation est minable, vous imaginez. Donc ce n'est pas un accès à l'éducation qui en demande, c'est un accès à l'éducation de qualité. Donc, pas encore exécuté votre arrêt. Et pour la Slovaquie, on a connu toutes ces femmes stérilisées. Ce n'est pas une seule. Ils sont plusieurs. Ils sont centaines de femmes roms qui ont été stérilisées par des hôpitaux. C'était une politique. Ce n'était pas des initiatives isolées des médecins. Et beaucoup de femmes n'ont pas pu arriver jusqu'à votre cours parce que la police les a intimidées. Et c'est le travail excellent des associations comme la vôtre qui amène ces femmes devant la cour. C'est le travail des associations qui travaillent au côté, qui sont au quotidien à côté de ces familles. Donc l'accès au droit n'est pas évident, mais il y a beaucoup et beaucoup d'associations qui luttent au quotidien. Donc j'avais préparé tout un discours pour ce soir, comme une bonne fonctionnaire du Conseil de l'Europe, que je ne peux pas lire, vous me permettez. Mais j'aimerais quand même, le titre il est très intéressant, parce qu'il y a une multitude de réalités concernant l'Europe. Il y a la réalité des institutions internationales, comme la nôtre, le Conseil de l'Europe, avec toutes ces conventions, les 8 recommandations sur l'accès aux droits pour les Roms, les résolutions du comité des ministres contre le tziganisme, les conventions comme la convention cadre. Il y a tout un arsenal pour les États membres pour lutter contre la discrimination et le racisme et pour adopter des politiques d'intégration. Ils ont tout. Depuis 1969, le Conseil de l'Europe travaille afin sur ces volets, et on a mis tout en place. Mais il y a l'autre réalité qui est un peu qui n'est pas dans la même longueur d'onde, et c'est la réalité nationale, régionale, et enfin la réalité locale. Et cette réalité, tout d'abord, il y a un constat, il y a une montée de l'antiziganisme dans toute l'Europe. Vous le constatez au quotidien, il y a des Roms qui sont victimes d'une violence phénoménale. On a des morts. En Hongrie, en 2010, on a eu 25 morts. Il y a un discours politique de la haine. Il y a des généralisations sur le comportement criminel. Et ça m'amène dans une autre réalité. La réalité de l'instrumentalisation de la question Roms par les hommes politiques, hommes et femmes politiques. L'exemple de la France est édifiant. Un seul fait divers a pu susciter des bruits politico-médiatiques et des prises de position au-delà de nos frontières, ce qui démontre que la question est mal connue et mal traitée par des politiciens, qui tiennent d'ailleurs un double langage quand ils sont devant nous. Ils veulent intégrer aux principes européens, mais à la fois ils veulent avoir la maîtrise des politiques nationales. Il y a aussi la réalité reste des associations, de la société civile qui est très impliquée à la question. Mais souvent, on demande à ces associations de se substituer à l'État. Et ce n'est pas seulement en France, c'est partout. Alors, on donne des fonds aux associations pour faire ce que les États, autorités locales, ont dû faire à leur place. Bon, ils peuvent répondre, bien sûr, à la première urgence, comme ce sont les villages d'insertion en Italie ou en France. Ça, je peux comprendre. Mais ils ne proposent pas des solutions pérennes d'intégration. Et après, on voit bien que les autorités locales, surtout les autorités locales, ont du mal à prendre les relais. Ont du mal à prendre les relais parce qu'aussi, ils n'ont pas les compétences. Ils connaissent mal la question. Ils ont une approche juste sécuritaire où la prétendue de la clause de rente devient un prétexte pour amorcer les débats sur la sécurité européenne. Mais il y a aussi, et c'est pas une tâche facile pour les autorités locales, la pression de la population majoritaire, qui n'aime pas l'Europe. Ils ne veulent pas les avoir à côté. Ils ne veulent pas les avoir dans leur cour, comme ils disent les Anglais. Et la pression de la population majoritaire peut être radicale pour les autorités locales. On a rencontré partout, en Italie, on a eu le cas d'un maire qui a perdu les élections, un maire pourtant qui était pendant des années maire de la ville, parce qu'il a suivi une politique d'intégration en faveur de Rome. Souvent, cette intervention des autorités locales est considérée avec une suspicion par la population majoritaire. Et c'est là où il faut vraiment intervenir et informer, éduquer. Informer, éduquer, pourquoi ? Qu'est-ce qu'on a gagné en impliquant ces politiques ? Et je pense que ça, c'est la responsabilité des autorités. Ce n'est pas la responsabilité du Conseil de l'Europe ni des associations. Bon, il y a aussi l'autre réalité qu'on constate depuis des années, 10 ans maintenant, il y a l'émancipation des communautés roms. C'est-à-dire que les communautés roms, vous l'avez bien dit, ils ne feront jamais la révolution, malheureusement. Ils ne sortiront jamais dans les rues. On aurait bien aimé voir ça. Mais il y a une émancipation qui vient, et qui vient surtout des pays de l'Est, où on a beaucoup de roms qui sont éduqués, la Roumanie. C'est le meilleur exemple, ils ont 2 millions de Roms, vous avez 15 000 en France qui sont mal éduqués, parce que Michaël m'a dit que quand elle est allée à l'école ou quand son enfant allait à l'école, on le mettait dans une classe écrasée, la maîtresse ne venait presque pas. Mais on a aussi des Roms éduqués, on a des Roms qui sont vraiment les meilleurs ambassadeurs pour nous. Qui vient de la Roumanie, de la Slovaquie, de la République tchèque, moins de l'Europe de l'Ouest. Pourquoi, je ne sais pas. La Grèce, l'Italie, l'Espagne, le Portugal, la France, l'Angleterre, à moins des Roms éduqués, avec des diplômes universitaires qui peuvent vraiment élever leur voix et travailler par rapport avec les autorités. Il y a aussi des questions qui sont quand même épineuses au sein de la communauté. Et la communauté commence à parler, les femmes surtout, parce qu'il y a le mariage des enfants, le mariage forcé. Il y a des habitudes, des coutumes qui ne sont pas tellement coutumes liées au Rome. Il faut faire attention, parce qu'on rentre encore dans les stéréotypes. Ils sont liés à la pauvreté, ils sont liés au manque d'éducation. Mon grand-père, il a marié sa fille, ma mère, à l'âge de 16 ans. Pourtant, elle n'était pas ronde. Mais à l'époque, au 19e siècle, au 20e siècle, en Europe, on mariait les filles jeunes et on envoyait les garçons à travailler. L'école, ce n'était pas une priorité. Donc, c'est erroné de dire que l'école, l'éducation, ce n'est pas une priorité pour les Roms. Ce n'est pas une priorité parce qu'ils sont pauvres, simplement. Donc, il y a cette réalité de Rome qui aborde ces questions, qui ce sont des questions qui renforcent le préjugé. Et je pense que l'essentiellement ne doit pas être imposé. L'essentiellement doit venir des communautés elles-mêmes. Voilà. Et enfin, j'aimerais vous parler de réalité scientifique, parce que bon, ça fait maintenant quelques années que j'ai travaillé sur la question. Et alors, c'est une question qui attire. Si vous faites une recherche sur l'Internet, vous verrez qu'il y a plein de livres, des articles, plein de recherches sur le Conseil de l'Europe a une grande responsabilité dans ces domaines. Il y a plein de itinéraires photographiques, etc. Tout ça, surtout par les non-voyants. Bon, c'est très bien. Ça peut, si ça peut susciter l'intérêt, c'est très bien. Mais je me rappelle qu'au début de ma carrière, j'ai participé à un colloque en Turquie, des anthropologues, sociologues, qui discutaient de la question rome comme un spécimen exotique. Il n'y avait aucun rome dans la salle. Et souvent, c'est le cas. Tout est fait par les non-roms pour les roms. Et donc, j'arrive juste à la fin, Ulrich, excusez-moi. Gad, il disait que ce que tu fais pour moi sans moi, tu le fais contre moi. Et je suis tout à fait d'accord avec ce qu'il disait Gad. Donc, je pense que c'est très important d'inclure les roms, c'est très important d'aller vers les roms, parce qu'il faut savoir qu'ils hésitent. Ils ne nous font pas confiance et ils ont raison.